la différence sexuelle à l'âge classique, c'est-à-dire à partir du XVIIe siècle, a notamment été à travers ce que j'ai appelé donc la pathologisation des corps. L'idée selon laquelle les corps féminins, le corps féminin et les corps des femmes étaient considérés par la plupart des philosophes, des savants, des médecins, etc., comme des corps inférieurs, différents, parce que des corps malades, c'est-à-dire davantage sujets aux maladies que les hommes, et sujets à des maladies spécifiques, spécifiquement féminines, qui ne touchaient pas les hommes.
Alors, ça existe encore hein, très récemment, on a encore des traités sur les maladies féminines, mais est-ce que ça n'existait pas avant le XVIIe siècle?
Alors bien sûr, ça existe avant le XVIIe siècle, on retrouve essentiellement ça dans la médecine antique, chez Hippocrate, chez Galien, et dans la philosophie antique, donc chez Aristote, mais dans l'Antiquité, on a encore une conceptualisation de la différence sexuelle qui est à la fois déjà sur la pathologisation des corps. Hein, on trouve vraiment chez Galien, par exemple, l'idée selon laquelle le corps des femmes est un corps froid, humide, avec un tempérament considéré comme flegmatique. Mais vous avez par exemple chez Aristote une autre conception qui est un petit peu différente, qui est aussi sur l'imperfection du corps féminin, mais qui est un petit peu différente. Mais c'est vraiment situé au XVIIe siècle que cette conceptualisation de la différence sexuelle va prendre tout son sens et va devenir paradigmatique, non seulement pour penser évidemment l'inégalité des sexes, qui est très très forte à ce moment-là, mais également pour penser et pour conceptualiser ce qui va devenir l'inégalité raciale.
Alors ça correspond en gros, enfin a priori, à l'émergence aussi de cette idée de médecine.
Oui, l'idée de médecine. Alors peut-être ce qui est important de rappeler, c'est que on est clairement dans une pensée de la domination. Hein. Donc là, on est vraiment dans un cadre dans lequel la médecine a été le grand discours, hein, le grand mode de théorisation d'un rapport de pouvoir, qu'est le rapport de pouvoir, qu'est la domination masculine. Donc la médecine a été au cœur de cette idéologie. Elle l'est toujours. Hein,
C'est-à-dire une médecine des hommes, pour les hommes, et la femme est laissée de côté jusqu'à ce moment-là.
Plus exactement, une médecine qui jusqu'ici était un savoir qui n'était pas encore un savoir parfaitement institutionnalisé. Et à partir du XVIIe siècle, donc ce qui veut dire aussi que, par exemple, les personnes qui étaient assignées aux soins du corps pouvaient être des hommes savants, mais également des femmes, voilà, et des barbiers, c'est-à-dire des chirurgiens barbiers, c'est-à-dire des petits médecins, hein, bon, qui n'avaient pas de formation, qui n'avaient pas reçu de formation à l'université. Et au cours du XVIIe siècle, va s'institutionnaliser ce savoir médical. Et à partir de là, on assiste à plusieurs choses. Non seulement l'exclusion de tous ces petits corps de métier liés aux soins et donc, qui vont être donc qualifiés de charlatans. L'exclusion à proprement parler des femmes qui ne sont plus considérées comme ayant un savoir médical sur le corps. Et aussi un discours médical qui, parce qu'il devient un discours officiel, considéré comme scientifique, va devenir un discours d'autorité très fort pour montrer que les rapports d'inégalité naturels, ou prétendument naturels entre les individus, sont des rapports qui peuvent être pensés par les catégories du sain et du malsain. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que seront considérés comme inférieurs ou imparfaits des corps qui sont réputés malsains, malades, pathogènes. Et on va retrouver du coup avec les femmes, mais aussi avec les esclaves, par exemple, ou également avec les juifs.
Alors, pourquoi les femmes sont exclues, puisqu'elles ont un rôle important dans la médecine des femmes envers les femmes? Pourquoi, à ce moment-là, justement, sont-elles exclues de la médecine?
Alors, pourquoi elles sont... Pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'il y a une longue histoire de la médecine féminine par les femmes et pour les femmes. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais, quand on parlait de cette idéologie médicale pour penser la différence, la différence sexuelle, je suis toujours un peu mal à l'aise pour mettre Hippocrate, donc médecin du 5e siècle avant Jésus-Christ, dans ce lot. Parce que Hippocrate a en même temps un énorme respect à l'encontre des femmes médecins, des sages-femmes, dont il accorde une immense confiance et qui sont pour lui hein, partie prenante du processus thérapeutique. À partir de... Alors, la place des femmes dans la médecine, elle est tout à fait notable également, parce qu'on sait qu'au Moyen-Âge, et notamment au XIIIe siècle, il y a tout un art médical qui se développe, qui est représenté par un genre médical qui s'appelle le livre des secrets, et le livre des secrets des femmes. Et notamment, l'un des premiers, ça a été écrit par une médecin qui s'appelle Trotula, qui est vraiment une figure très importante de l'histoire de la médecine. Et dans ces livres, on a vraiment un savoir médical produit par les femmes, pour les femmes, sur le corps des femmes, et qui est donc à la fois un savoir médical qui vise à soigner le corps, mais également qui vise à l'embellir, qui est là pour le soigner, mais aussi pour s'en soucier, hein, avec un souci particulier. À partir du XVIIe siècle, il est vrai que du fait de cette institutionnalisation de la médecine, les hommes vont clairement prendre le pouvoir. Ils vont exclure la plupart des femmes, des sages-femmes, des matrones, en les accusant de sorcellerie. Hein, et ça correspond à la grande chasse aux sorcières qu'a connue l'Europe de l'âge classique. Donc les femmes sont exclues au nom de leur incurie. Hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va considérer que ce qu'elles savent, c'est rien du tout. Hein, ce sont des recettes de bonnes femmes, ça ne sert à rien. Elles sont la plupart d'ailleurs accusées de sorcellerie et brûlées. Et puis les hommes vont arriver dans ce champ médical qui est la gynécologie. Et là, on va assister à l'émergence d'un nouveau genre médical qui s'appelle et qui va donner lieu à des centaines de traités, qui s'appelle les traités des maladies des femmes. Et tout d'un coup, effectivement, les hommes de l'art, les médecins, accédant à ce corps féminin, vont être comme stupéfaits par sa douleur et par sa vie organique, et vont considérer que le corps féminin est un corps qui saigne, qui coule, un corps souffrant, un corps hurlant. Et on va avoir des descriptions dans les traités des maladies des femmes sur l'hystérie essentielle du corps féminin, sur sa nymphomanie, sur son engorgement, etc.
Attention, ils sont venus la fœtus. On voyait qu'elle aimait être amoureuse, et sa longue chevelure faisait comme une couverture à peine à voir. Maintenant sale, ah, tu m'assassines, me sauve ton âme. Ah, tu commets un crime, pauvre femme. Par ma voix, chante de la beauté. Tu es endiablée par ta bouche, c'est le diable qui accouche. Tu voudrais bien que je te touche. D'ailleurs, tu fais tout pour me plaire. On peut dire que tu sais. Comme t'es libre et comme t'es bonne. Le grand inquisiteur sent battre son cœur. Le grand inquisiteur sent fondre son cœur.
Ce qui est intéressant quand même, c'est que à la fois les femmes médecins sont traitées de sorcières, et on trouve en même temps énormément d'intersexes qui sont brûlés parce que bon, pour sodomie, disons-le clairement, et à ce titre-là, donc c'est une appropriation du corps qui ne correspond pas à ce que la société attend d'elle à ce moment-là, qui fait que ce soit l'utilisation du corps de l'autre ou sa propre utilisation qui fait que l'on est purement et simplement brûlé en sorcellerie ou pour sodomie.
Exactement. Alors c'est vrai que pourquoi ça participe de ce putsch masculin dans l'univers de la médecine, ou du corps en tout cas, et c'est qui correspond donc qui est en gros les années 1750, hein, qui est vraiment l'année caractéristique de cette arrivée massive des hommes et l'exclusion des femmes de la médecine. Alors en fait, ça correspond à une modification dans la gestion sociale de la reproduction. C'est-à-dire que se met en place une politique nataliste,
voilà,
hein, qui est très importante parce que en fait, ce sont les premières techniques de production d'une nouvelle nation française. Alors on discutera tout à l'heure pour voir quels sont les enjeux. C'est extrêmement lié à la colonisation, hein. On a besoin d'une nation forte parce que il y a une politique impériale qui se développe à ce moment-là et qui donc nécessite que il y ait des enfants et des enfants forts, et par conséquent il faut que les femmes soient mis au pas et mis au pas par rapport à la reproduction, et donc il faut contrôler leur corps et leur sexualité. Par conséquent, on met des hommes qui sont là pour surveiller cette sexualité, et désormais toute femme qui aura accès au corps des femmes sera d'une certaine façon au service d'un pouvoir politique qui est là pour maximiser la capacité reproductive des femmes.
Voilà, on fait des femmes des reproductrices.
Exactement.
Et les hommes les gestionnaires de ces reproductrices.
Voilà, alors évidemment dans ce contexte, les femmes qui étaient jusqu'ici les sages-femmes, les matrones, etc., vont être exclues et accusées de sorcellerie, précisément parce qu'elles ont un rôle qui est traditionnellement celui d'assistante dans le cadre de la grossesse et de l'accouchement.
Hein, Mais surtout,
évidemment, dans le cadre de la transmission des secrets des femmes. Et les secrets des femmes, c'est pas seulement le soin et l'embellissement du corps, c'est aussi précisément l'ensemble des techniques anticonceptionnelles, c'est-à-dire l'ensemble des techniques liées à l'avortement, à l'infanticide et à l'empêchement de la fécondation, c'est-à-dire l'ensemble des PCR, préservatifs, capotes qui existent pour se préserver, hein, de toute grossesse. Et c'est ça qu'on veut que à ce moment-là, le pouvoir médical, le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir politique veut faire cesser. C'est ces secrets-là qu'on veut interdire et qu'on veut. Et donc on va brûler beaucoup de matrones. Et c'est vrai que parallèlement, au début du XVIIe siècle et tout au long du XVIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, on va assister à un certain nombre de procès pour sodomie d'hermaphrodites, hein, ce qu'on appelait alors les hermaphrodites. Alors il faut savoir juste que le terme de sodomie est en fait un terme qui ne désigne pas forcément les pratiques de sodomie, mais qui plus généralement désigne toutes les pratiques dites contre-nature, c'est-à-dire
non reproductives.
Voilà, tout simplement, les pratiques non reproductives. Et c'est vrai qu'on va assister à un certain nombre de procès d'hermaphrodites qui vont être brûlés comme les sorcières, Et là, ce qui est particulièrement problématique pour les autorités, encore une fois, médicales, ecclésiastiques, politiques, c'est l'idée selon laquelle on a ici des individus qui ont une sexualité non reproductive et potentiellement homosexuelle. Et donc, c'est cette idée-là. Alors, pourquoi ? Parce que... c'est ça qui est intéressant dans l'histoire de cette conception de l'hermaphrodisme, c'est que à partir de, enfin jusqu'ici, disons, on désignait les hermaphrodites comme étant des changements de sexe au cours de la vie, et à partir du XVIIe siècle, on va contester la véracité de ces changements de sexe en considérant que tous les hermaphrodites sont en fait des imposteurs, et plus fondamentalement des femmes qui, à l'occasion d'une hypertrophie clitoridienne, c'est-à-dire à l'occasion d'une anomalie anatomique, profitent de cette anomalie pour se servir de façon tendancieuse de leur clitoris, en gros de s'en servir comme un pénis, et de satisfaire d'autres femmes. Donc ce qui fait peur ici, c'est pas tant l'ambiguïté sexuelle que la possibilité que des femmes puissent se satisfaire entre elles, se satisfaire sexuellement évidemment. Tous ces procès qui vont avoir lieu vont se finir sur des jugements qui vont souvent donner lieu à des conseils de la part des médecins, ça ne veut pas dire qu'ils seront effectués, mais de la part des médecins, sur, puisque les hermaphrodites sont en fait des tribades, c'est-à-dire des lesbiennes, mais qu'on appelait alors des tribades, puisqu'elles sont en fait des tribades et qu'elles ont donc une excroissance clitoridienne, pour que cesse cette perversité, il faut donc supprimer l'occasion anatomique de cette perversité. Et c'est vrai qu'on va avoir là les premières pratiques de clitorectomie sur les corps des personnes intersexes.
Alors, je rappelle que c'est toujours le cas en Occident, où un enfant qui naît avec soi-disant un clitoris hypertrophié ou une bite trop petite, on le rectifie. C'est ça qui est hallucinant, c'est qu'on est au XVIIIe siècle, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nos médecins, à l'heure actuelle, continuent dans ces techniques-là.
Voilà, tout à fait. Alors, mais cela étant, là, on va vraiment avoir un espèce de dispositif total, hein, parce que c'est non seulement les hermaphrodites qui vont évidemment être les victimes du pouvoir médical, mais plus généralement l'ensemble des femmes et des femmes, alors premièrement des femmes européennes, puisque la plupart des femmes, et notamment celles qui sont diagnostiquées pour nymphomanie, vont souvent être victimes de la clitorectomie, hein, donc la nymphomanie. C'est une pathologie très intéressante parce que, en fait, dans cette idée selon laquelle les femmes sont inférieures parce que ce sont des corps malades, on a l'idée selon laquelle les femmes sont par nature des hystériques. Alors, les hystériques, c'est par définition, hein, les maladies de l'utérus, c'est-à-dire qu'une femme est femme précisément parce qu'elle a un utérus, et l'utérus est par définition un organe malade. Et un organe malade, souvent parce que il n'est pas sexuellement satisfait. Et alors là, c'est sexuellement satisfait dans le cadre de la reproduction. Donc toutes les femmes sont plus ou moins hystériques, mais on va trouver une petite minorité de femmes qui vont être, elles, considérées comme nymphomanes. Et la nymphomanie est une pathologie qui est plutôt une pathologie, non pas du froid et de l'humide, c'est-à-dire du paroxysme de la féminité physiologique, mais au contraire une pathologie du chaud, de l'ardent, du brûlant.
Masculine.
Et donc, c'est une pathologie, au fond, qui donne lieu à des mutations de genre de la part des médecins, qui vont viriliser à outrance ces femmes en leur prêtant un tempérament, un naturel, un viril, parce que ces femmes, ces dites nymphomanes, sont prioritairement, celles qui vont être accusées de nymphomanie, sont prioritairement les prostituées, les femmes du peuple, et majoritairement les Africaines et partant les femmes esclaves.
Alors, ce qui m'étonne quand même, c'est que les termes que tu emploies, on les emploie aujourd'hui encore couramment, ils ont été repris dans la psychanalyse, et c'est toujours les mêmes définitions, et c'est aux mêmes personnes qu'on les attribue.
Ah oui, non mais c'est... Voilà, ce sera encore une très longue discussion. Moi, j'ai pas fait l'histoire, enfin, je suis pas allée justement jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle par rapport à la psychanalyse, mais il y aurait des choses évidemment extrêmement intéressantes. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment... ici la façon dont ces maladies ont d'abord été des maladies qui ont permis de penser une relation de pouvoir, de conceptualiser la différence sexuelle et vraiment fondamentalement de pathologiser des corps pour montrer leur différence. Et le cas le plus important est certainement le cas des femmes noires au XVIIIe siècle, puisque alors qu'on considère que les femmes européennes, et notamment les prostituées, les femmes du peuple, les tribades, sont des femmes qui sont pathologiquement trop chaudes, hein, et avec toute l'ambiguïté de ce terme, c'est-à-dire qui ont une sexualité beaucoup trop active, beaucoup trop virile.
Mais qu'on dit aujourd'hui vulgairement une chaudasse.
Mais
hein.
Exactement. Ces femmes, considérées comme des chaudes, hein, des chaudasses, vont être victimes de la médecine qui va intervenir directement sur leur corps pour les renormaliser, c'est-à-dire pour les reféminiser. Au prix hein, d'opérations.
Les refroidir,
c'est exactement ça. Hein. D'ailleurs, on les balance dans des bains froids,
tout à fait, oui.
Exactement comme on faisait pour les sorcières. Donc, on a vraiment un système qui est très, très intéressant. Et parallèlement, on va avoir, sur le cas des Africaines, qui sont en fait hein, les esclaves, hein, c'est-à-dire celles que les médecins observent dans les colonies des Amériques et qui arrivent par millions et qui vont être... sous domination plantocratique, on va considérer que ces femmes sont non plus pathologiquement chaudes, mais essentiellement chaudes. C'est-à-dire que ce qui va caractériser les Africains et le corps noir, c'est précisément le fait d'une inversion de genre, d'une inversion sexuelle caractéristique d'un peuple.
L'homme est froid et la femme est
Exactement.
Chaude.
Exactement. Et c'est précisément cette inversion qui va permettre de constituer une race à part, inférieure, c'est-à-dire de stigmatiser, hein, de marquer ce peuple par le sceau d'une caractéristique naturelle et endogène, la race, et qui en fait, en son fond, est fondée sur le genre et l'inversion de l'ordre sexuel.
Ou dépourvu de génie, grand vainqueur à l'âme de gagneur, ou fainéant et menteur, tout ça dans un même corps réuni. Race qui réussit, espèce peut avancer, sans histoire écrite ni récit, donc sans passé. Inventeur cravaté, créateur gâté, créature ratée, sans grandeur à cravacher. Civilisateur, sensibilisé, par train de vie aisé, hectare à dévaliser. Martyr, dans la moiteur désalisé, moteur d'immense fortune réalisée. Amateur de belles lettres et de poésie, frappeur de tambour avec fracas et frénésie. Grand penseur encensé, petite frappe assassin, baroudeur résistant, quémandeur assisté. Humble sujet du Tout-Puissant, se référant au Livre Saint. Individu indécent qui dissimule à peine, et leur sexe et leur sein, et leur sang est souillé, leurs chants sont brillants, dépouillés d'humanité, leurs yeux sont fuyants. Apprenons-leur à prier Jésus-Christ sans crier, et trier la canne à sucre tout en souriant. Oui, la nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La nature a fauté, s'est planté en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. Que disent la science et la messe, toutes les grandes puissances du monde et la presse, que cette noirceur, en présence dans la pièce, nous est inférieure comme la chienne et la naisse. Bon chrétien, j'acquiesce, volontiers j'angoisse, les os glacés placés devant ce corps sans grâce, et ses cuisses sont trop grosses, ses narines embrassent chacune des extrémités de sa pauvre face. Ses fesses sont une énorme masse, conséquence, sa silhouette n'a aucune forme de classe. Sa peau, une carapace de cuir sans souplesse, lèvres si épaisses qu'elles en deviennent grimaces. La pommette est saillante, chers clients, clientes, ne vous arrêtez pas à cette laideur criante. Les jungles de l'Afrique, lointaines et luxuriantes, nous offrent des spécimens de différentes variantes. Leurs femelles sont fertiles et vaillantes, dociles et idiotes, font elles-mêmes leurs paillotes. Les mâles ont côtoyé éléphants et coyotes, nourris de chasse, de pêche et de cueillette. Éloignez quand même vos fillettes. Parfois le sauvage plonge dans la démence en rage, peut réduire un humain en miettes, mais le passage du fouet le ramène au silence. Oui, la nature a fauté, s'est plantée en beauté. toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La créature ratée. La créature ratée. La créature ratée. Être la créature ratée.
Chez nous, c'est une maladie, c'est pathologique. Et là-bas, c'est normal parce que ce sont que des Noirs.
Exactement. Et alors, évidemment, on va considérer que là-bas, la clitorectomie, hein, chez ces peuples africains, la clitorectomie n'est pas exercée par les médecins, mais que c'est une coutume. C'est une coutume pratiquée sur toutes les jeunes filles parce que toutes les jeunes filles sont par nature. Des jeunes filles qui ont qui sont des mutantes, hein, de vraies mutantes, c'est-à-dire qui ont des clitoris démesurés et qui donc sont susceptibles de s'en servir de façon active sur d'autres femmes.
Voilà. Alors il y a aussi cette idée que le planteur peut se servir comme il veut du corps de ses esclaves et que de toute façon comme elles sont chaudes, ce sont pas des femmes, donc il les mettra pas enceintes, et si elles sont enceintes, c'est pas de sa faute.
Voilà, mais ça va très loin. On sait très bien que on sait très bien qu'il y a eu une pratique de viol systématique de la part des planteurs, c'est-à-dire des colons à l'encontre de leurs esclaves. Femmes et hommes, d'ailleurs, ce que l'on sait moins. Et dans cette représentation médicale du corps noir et du corps racisé, on sait également que le fait de considérer ces femmes comme ayant un tempérament particulièrement chaud et ardent permettait de conclure qu'elles étaient non seulement sexuellement actives et entreprenantes, c'est-à-dire que c'est elles qui venaient chercher le rapport sexuel. Et la deuxième conséquence, c'est que c'était des femmes qui, par nature, étaient davantage stériles que les blanches parce que leur naturel chaud, brûlant, consumait le sperme et empêchait la conception.
Mais ça, c'était théorisé.
Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est théorisé dans l'ensemble du corpus des traités des maladies des femmes au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est théorisé dans l'ensemble des traités des maladies des esclaves à la même période. Et on retrouve ça exactement le même raisonnement avec les prostituées. Hein. On considère historiquement que les prostituées sont des femmes qui sont bien plus stériles que les autres femmes, précisément parce qu'elles auraient un tempérament qui, par nature, est un tempérament ardent, chaud, etc. Et que, du coup, elles sont moins fécondes. Mais on retrouve ça au XIXe siècle chez Parent du Châtelet. Hein, donc, c'est quelque chose qui est...
Oui, et de toute façon, on le voit encore à l'heure actuelle, au moins en France. Hein, c'est la prostituée ne peut pas être mère et on lui retire ses enfants, parce que par essence, ce n'est pas une femme.
Mais là, on avait une conception physiologique de la stérilité qui, évidemment, en son fond, est une conception politique de la stérilité. C'est-à-dire que, de fait, toutes ces femmes, les prostituées, les tribades, les femmes du peuple et les esclaves ne sont pas considérées comme de vraies femmes, c'est-à-dire qu'elles sont exclues des bénéfices sociaux et symboliques de la féminité.
Alors, dans le même temps, à peu près à la même époque, mais plus au XIXe siècle, dans l'Angleterre victorienne, on pratique très couramment sur les femmes la clitorectomie. Et en France ?
En France, très très largement. On cite souvent l'Angleterre victorienne parce que les travaux sur cette pratique ont été souvent faits. Ce sont des travaux anglophones, mais c'est ce que j'explique dans le livre. La pratique de la clitorectomie au XIXe siècle est extrêmement courante en France. Et on sait très bien que énormément de femmes hystériques, nymphomanes, etc., ont subi cette opération. Et jusqu'à la toute fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, on retrouve encore des cas de clitorectomie relativement courantes.
Aujourd'hui, en fait, on continue systématiquement, en Europe en général, aux États-Unis aussi, en général aussi, bon, plus en Suisse, mais on continue à mutiler systématiquement dès la naissance des enfants qui n'ont pas, soi-disant, des organes qui soient conformes, et en utilisant ces techniques qui ont été mises en place à l'aune du colonialisme.
Oui, voilà, ce qui est intéressant, c'est ce double dispositif à la fois d'intervention chirurgicale sur le corps, alors notamment effectivement pour tout ce qui concerne la clitorectomie, notamment comme opération paradigmatique, qui est pensée à partir du XVIIe siècle, donc à la fois sur les femmes, sur les intersexes et également sur les corps des femmes africaines notamment, qui est pensée alors de deux façons différentes. D'une part, en Europe, qui est pensée comme dans le cas d'une pathologisation du corps, c'est-à-dire c'est une anomalie que les médecins doivent rectifier. Il faut rectifier la nature qui a un peu vrillé, hein, qui s'est un peu plantée. Et c'est exactement le même discours.
Le même terme.
Voilà, dans les protocoles actuels sur l'intersexualité, c'est exactement le même discours. C'est-à-dire on doit rectifier une erreur de la nature. Et nous sommes là dans une intervention qui est la plus neutre, soi-disant possible, présenté comme neutre, qui est, attention, la nature a loupé une marche, on va juste venir rectifier ça. Et puis, par rapport à ces questions dans les pays ou dans les zones altérisées, hein, c'est-à-dire principalement sur les populations altérisées et racialisées, donc notamment dans le cas de l'esclavage, pour les populations africaines, et puis aujourd'hui, plus généralement, évidemment, surtout les populations du Sud et qui sont outrancièrement racialisées, on va avoir
exotiques,
évidemment. Et on sait très bien que lors des grandes expositions coloniales au 19e siècle ou au 20e siècle, on va présenter ces corps de femmes noires avec ces clitoris et ces lèvres hypertrophiées.
Oui, ou la Vénus hottentote.
Évidemment, c'est le cas de la Vénus hottentote. C'est le cas de la Vénus hottentote. Et là, on ne dit pas que c'est une erreur de la nature. On dit que c'est une caractéristique anthropologique. Et par conséquent, on va identifier les pratiques d'excision, notamment, comme des pratiques culturelles et non pas comme des pratiques médicales. Ce qui est tout à fait fallacieux, puisque dans les deux cas, ce sont évidemment des pratiques culturelles et en aucune façon des pratiques médicales dans un cas et des pratiques culturelles dans l'autre.
Et en plus, on faisait venir les médecins, notamment d'Égypte, pour pratiquer la clitoridectomie. J'arriverai jamais à le dire.
Clitorectomie
sur la femme blanche. Donc, on considérait là que le praticien était un médecin et que c'était médical. Par contre, dans son pays, c'était coutumier.
Alors là, j'ai pas de traces des médecins, mais surtout, on va considérer que les pratiques, ceux et celles qui pratiquent ces opérations en Afrique, notamment, ne sont pas des médecins. Et c'est pas étonnant de savoir que c'est souvent des femmes. Les exciseuses sont des femmes. Donc, elles ne sont pas considérées comme des médecins. Et elles sont considérées... Donc là, on retrouve encore... Enfin, les choses sont extrêmement imbriquées. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'intersexualité va devenir vraiment le cœur de la définition, la conceptualisation de la différence sexuelle et du rapport de genre, et va être en même temps au centre de la question de la racialisation des corps. Donc en cela, c'est extrêmement actuel.
Oui, parce que quand on parle à des médecins occidentaux, ils nous disent systématiquement l'intersexualité, c'est exotique, c'est le Maghreb, c'est les Grandes Antilles, c'est... voilà. Et quand on va dans des colloques sur le genre, très souvent, on a l'anthropologue qui a étudié les Inuits ou les Fa'afines ou les Rérés qui acceptent qu'on vive dans un autre genre. Et là, c'est montré comme quelque chose de très positif.
Exactement. Alors il faut évidemment être particulièrement attentif et attentive à ce type de discours, parce que on a là l'idée d'une culturalisation des définitions de genre extrêmement problématiques politiquement. Parce qu'il s'agit au fond de reprendre un vieil adage du racisme biologique selon lequel dans les peuples qui témoignent d'une civilisation prétendument moindre, inférieure ou d'une non-civilisation, hein, dans ces peuples dits arriérés du 19e siècle ou du 20e siècle, eh bien ces peuples, on atteste de leur arriération par l'idée selon laquelle les identités de genre sont extrêmement floues, voire absente. C'est-à-dire qu'il y a une indifférenciation sexuelle.
Un peuple moderne est un peuple binaire.
Et un peuple civilisé et moderne est évidemment un peuple où la différence, la différenciation sexuelle est arrivée à son acmé. Par conséquent, aujourd'hui, quand on a, mais vous voyez, les cas de transsexualisme ou d'intersexualité, c'est évidemment bien plus courant chez, aux Caraïbes, au Maghreb, etc. On a là, en fait, la résurgence d'un discours raciste qui ne veut pas admettre que les brouillages des identités sexuelles et sexuelles est évidemment présent partout. Et donc, on va dire, c'est ailleurs, c'est eux. Mais voilà. nous, au contraire, c'est extrêmement clair. Et quand ça ne l'est pas, alors on intervient de façon d'autant plus violente.
Voilà. Et en plus, ça permet de bien regarder, bien exposer le corps, si c'est un corps exotique. Et ça, on le voit vraiment dans tous les ouvrages médicaux, dans les thèses sur l'hermaphrodisme ou dans le discours avec les médecins où ils vous disent, où ils écrivent. Vraiment, si on voit deux cas, notamment, je te parle souvent de cette thèse-là, une thèse de 1952 de médecine de Lyon, où les cas d'hermaphrodite français sont vus assez rapidement, et les cas d'hermaphrodite nord-africains, donc c'est de pauvres paysans, immigrés, etc. Et sont vraiment, vraiment très très détaillés, jusque dans le moindre détail de leurs
voilà,
génitaux et de leur vécu.
C'est exactement le même processus. Dans un cas, c'est de la pathologie, donc c'est exceptionnel. Et dans l'autre, c'est anthropologique, et donc c'est même une caractéristique raciale ou culturelle. Si on ne comprend pas ce dispositif, on ne comprend pas que la question de l'intersexualité et de sa répression, la question du sexisme et du racisme sont étroitement liées. Il me semble qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui le féminisme sans avoir une pensée profondément articulée à cette idée de intrication des rapports de pouvoir, donc au sens domination masculine, racisme, pathologisation des sexualités et la question de la pathologisation et de la répression des corps et des individus intersexes, c'est-à-dire de l'intervention sur les corps. Donc, comme j'ai essayé de le montrer, c'est tout le cheminement de la matrice de la race, ça a été vraiment de partir comment on a conceptualisé la différence sexuelle pour l'ancrer dans les corps et comment à partir de là on a la différence sexuelle a servi de modèle pour penser la différence raciale et par conséquent le sexisme et a une histoire liée avec le racisme et aujourd'hui c'est tout à fait patent et comment du coup l'intersexualité a toujours été pensée comme le cas limite qu'il fallait contre lequel il fallait s'élever ou le cas parce que c'est le cas limite qui remet en cause la définition idéologique de la différence sexuelle, la définition normative, oppressive de la différence sexuelle. Donc il me semble que le combat des intersexes est un combat éminemment féministe, et il doit être en tout cas éminemment féministe et antiraciste, de la même façon que le féminisme aujourd'hui, pour moi, mon féminisme, en tout cas celui que je défends, est un féminisme qui est au cœur des luttes des intersexes.
Alors, c'est une des pierres d'achoppement de notre militantisme intersexe, c'est qu'on a d'un côté le peu d'intersexes qui ont conscience d'être intersexes et qui sont prêts à militer, très souvent le voient à l'aune de leur propre intersexualité et sont pour une reconnaissance juridique ou médicale, mais ne voient pas l'intérêt de ces convergences de lutte. Et c'est un mouvement qui est finalement très, très kaléidoscopique, hein, où d'un côté, on a des pays comme les Pays-Bas qui refuse absolument toute convergence de lutte, notamment avec les transsexuels, où on a des personnes comme moi en France ou Edith Nagan en Belgique, pour lesquelles on est fondamentalement des féministes et on a des convergences de lutte avec les mouvements antiracistes ou avec les mouvements de classe. Et là, je ne sais pas si c'est une difficulté propre à notre époque, hein, où il y a peu de convergence de lutte, ou si c'est lié au fait que l'intersexualité soit tellement méconnue et touche tellement à l'intimité des gens que ça empêche cette intégration, notamment dans les luttes féministes.
Je pense qu'il y a eu, une dans l'histoire du féminisme, parce que le combat a été dur et il est toujours très dur, mais on a mis du temps à intégrer la problématique de l'intersexualité. En tout cas, on a mis du temps à la reconnaître. C'est vrai qu'à partir du moment où on rentre dans un féminisme qui est celui de la déconstruction des identités sexuelles, donc de genre et de sexualité, la question de l'intersexualité est au cœur du combat parce que au fond, de la même façon que pour un certain nombre d'intellectuels et de militantes trans qui se revendiquent féministes aujourd'hui, c'est fondamental. L'idée selon laquelle mon corps m'appartient, et ben ce slogan qui est historiquement un slogan féministe a été dans la longue histoire que j'ai essayé de décrire une revendication et un mot d'ordre qui est celui de la convergence des luttes entre la réappropriation des femmes de leur propre corps, la réappropriation des intersexes de leur propre corps et la réappropriation des esclaves de leur propre corps.
Je voudrais que tu nous explicites un petit peu ce qui t'a amené à t'intéresser à l'intersexualité. Quelles sont tes motivations ?
Donc certainement pas l'université, par exemple. Enfin, c'est certainement pas à l'université que j'ai entendu ça. Comment je suis arrivée à m'intéresser à l'intersexualité pour des questions politiques et épistémologiques, puisque théoriquement, moi, je me situe dans un courant de la théorie féministe qui est celui de la déconstruction et de la dénaturalisation des identités sexuelles. Et à partir de ce moment-là, j'ai entamé toute une recherche sur comment les identités sexuelles, hommes, femmes, mâles, femelles, féminins, masculins, ont été produites. Et quelle a été la fonction politique de cette production, c'est-à-dire quel type de rapport de pouvoir ça a mis en place. Et à partir du moment où on s'intéresse à la production de ces identités, dans une posture qui est celle que ces identités sont un construit social, hein, qui a une fonction politique, eh bien, de fait, on s'intéresse précisément à l'histoire du sexe, et on s'aperçoit que le sexe a une histoire, et que l'idée qu'il existe que deux sexes, et deux sexes seulement, vole en éclats au profit d'une autre conception de la sexuation des corps. Et donc j'ai rencontré à la fois la question de l'intersexualité et j'ai rencontré en même temps la question du black feminism, du féminisme africain-américain, puisque historiquement, les femmes noires n'ont pas été considérées comme de vraies femmes, même de façon biologique, hein, c'est ce que j'ai montré avec l'esclavage. Et donc là, c'est un même discours, un même rapport savoir-pouvoir sur ces corps qui a été opérant à la fois pour les questions des hermaphrodites et à la fois pour les questions des esclaves. Et c'est mes deux corps préférés.
C'est joli. Alors, on voit depuis quelques temps un certain nombre de personnes qui s'emparent du discours intersexe, comme on a vu les années précédentes, des personnes s'emparer du discours transsexuel et puis auparavant des homosexualités, du féminisme, et des personnes qui sont extérieures à l'intersexualité. Bien que la définition de l'intersexualité soit quand même assez floue. Mais nous sommes dans la crainte de se faire, alors que notre discours émerge, de se faire confisquer un petit peu notre discours. Et je le vois notamment je suis assez critique sur ce qui a été écrit, notamment sur l'histoire de Barbin. Et un certain nombre d'entre nous, intersexes, on retravaille le manuscrit de Barbin parce qu'on considère que ça a été vu par des gens qui n'ont pas intégré toutes les thématiques de ce qu'est l'intersexualité et de ce qu'on peut vivre. Et entre là, bon, même si on est souvent en rapport, etc., t'as pas peur d'institutionnaliser un petit peu le discours intersexe, d'en faire un discours universitaire, un petit peu comme ce que je considère sur le discours queer en France, qui a été très universitaire et qui ne vient pas de la base.
Rapidement, je voudrais répondre là-dessus, parce que ça me semble important. Moi, dès que en travaillant sur la question du racisme, de l'esclavage, de la théorie féministe, de la pensée queer, de la question de l'intersexualité, je porte une parole qui, pour moi, est une parole éminemment politique. C'est-à-dire que moi, je me situe en aucune façon comme une scientifique ou une universitaire objective, désincarnée, qui aurait une position de surplomb sur le débat politique lié à ces questions. C'est-à-dire en aucune façon. Et par conséquent, c'est peut-être aussi ma position de philosophe qui me permet d'avoir cette posture politique. C'est que voilà, je suis, mon discours est un discours situé dans ces luttes.
Merci Elsa. Je vous rappelle donc l'ouvrage d'Elsa Dorlin, qui est philosophe à Paris 1, La matrice de la race, généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, aux éditions La Découverte.
Días, no llores, sonría, que de 24 horas que tiene el día, 16 son pa' que ría, ría, ría. Viene contado los días, no llores, sonría, que de 24 horas que tiene el día, 16 son pa' que ría, ría, ría. No te vas, no, aquí estás. Tu esencia que es mi herencia en cada trozo de compás. No espero más, ya todo dicho está. No camino sola, te tengo siempre detrás. No dejas de ser, no verte, no es perderte. Tengo un corazón que late y sabes que no miente. Que en lo profundo te siente hacerme fuerte. Al sol de tus consejos ha crecido tu simiente. Se n'est pas trop tard, c'est le temps de te dire tout ce que je pense. Bon voyage, ce n'est pas trop tard, c'est le temps de te dire tout ce que je pense. Ça c'est ma vie.